Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon mercredi soir, bienvenue à la VG Mission. Ce soir, je suis avec mon ami et collègue Léon. Allô?
Salut Daphné.
Merci d'être avec moi ce soir. J'ai demandé à Léon d'être avec moi aujourd'hui parce que Léon, il a une vision différente, si je peux dire comme ça, du véganisme. En tout cas, une vision différente de moi et en fait, la plupart des gens véganes que j'ai connus. Et aussi, Léon fait du dumpster diving depuis une couple d'années. C'est lui qui m'a parlé de ça au début de cette année. Je crois que tu m'as un peu introduit à ça. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler parce que c'est une pratique que beaucoup font. Mais en même temps, je pense que comme la communauté universitaire n'est pas vraiment au courant. Et bon, c'est quelque chose, je pense, qui peut vraiment faire sauver des sous à long terme. Fait que Léon, je te laisse parler dans le fond là, de commencer sur ta vision du véganisme.
Quelque chose que je trouve toujours important quand on commence à parler du véganisme, c'est qu'il y a une définition qui est assez sur laquelle les gens s'entendent beaucoup, mais qui n'est pas très connue en même temps. C'est une définition qui nous vient de la Vegan Society. Mm-hmm. Si on la traduit en français, c'est dire que le véganisme, c'est un mode de vie et une philosophie qui cherche à exclure autant que possible l'exploitation et la cruauté envers les animaux à des fins alimentaires, vestimentaires ou quelque autre fin que ce soit.
Ouais, c'est ça, c'est plus que juste pas manger de la viande ou des produits laitiers.
Exactement. Fait que là, dans le fond, c'est dire que faut que ce soit à la fois une philosophie et un mode de vie. Donc on peut pas être un vegan par accident.
Ouais.
Faut avoir la philosophie derrière tout ça.
Mm-hmm.
Et il faut que ça se traduise évidemment dans nos vies. Autre affaire qui est très intéressante, informe selon moi un véganisme qui est beaucoup plus intersectionnel, c'est que le véganisme, justement, cherche à exclure autant que possible et praticable, ou dans la mesure du possible, si on veut. Donc, ça veut dire que ça peut se traduire de manière bien différente dans la vie des gens. Donc, c'est possible, pour vous donner un exemple, qu'un vegan ait à consommer des produits animaux, s'il ne peut pas se permettre de faire autrement. Donc ça, ça permet d'inclure dans la vision du véganisme des personnes qui ne le seraient pas dans une vision plus traditionnelle, si on veut.
Ouais, comme pas pour les animaux, mais pour autre chose comme l'environnement, tu dis?
Ce que je veux plus dire, c'est que si on voit le véganisme d'une manière plutôt rigide, dans laquelle il faut absolument exclure toute consommation, peu importe nos circonstances personnelles, ben ça devient un petit peu plus exclusif. Alors que, si on s'en tient à la définition, il y a des gens qui vivent dans des déserts alimentaires, par exemple, qui mm-hmm. peuvent être des véganes. Des gens qui sont dans une situation économique défavorable qui peuvent être véganes aussi. Ça inclut, par exemple, des communautés autochtones qui sont dans le Grand Nord, qui n'ont pas nécessairement les mêmes capacités à faire des choix alimentaires.
Ouais, les ressources sont moins présentes que nous.
Voilà. Donc ça vient vraiment inclure des gens dans le véganisme.
Mm-hmm.
Ouais.
Ouais, fait que dans le fond, tu sais, ce que tu dis, c'est que si, par exemple, en ce moment, en fin de session, là, j'ai vraiment comme des gros besoins financiers, là, je suis vraiment comme pas tant à l'aise à ce niveau-là et que, je sais pas, je vais voir ma mère puis que là, elle me donne un paquet de viande hachée, tu sais, c'est que je ferais mieux de le manger. Tu sais, mettons, si je peux vraiment pas aller à l'épicerie puis manger du tofu, je ferais mieux de consommer son paquet de viande hachée que de rester, mettons, sur ma faim.
Ça pourrait être, oui, ça pourrait être faisable. C'est clair qu'après ça, à partir de la définition, ben, c'est à nous de juger de ce qui est acceptable
ouais.
ou non dans cette mesure-là.
Ouais.
Moi, je vais considérer que c'est quand même dans des cas plutôt
plus
extrêmes.
Là. Ouais. Parce que t'as vraiment comme pas le choix, là.
Exactement, ouais, c'est ça.
Ouais. Parce que j'avoue que sinon, tu sais, toutes les personnes végé-véganes, on pourrait toutes se trouver des excuses un peu comme « Ah, je suis plus à risque de moi si j'ai pas le temps d'aller à l'épicerie, je vais prendre qu'est-ce que ma mère va me donner. » Tu sais, je pense qu'après ça, on abuserait un peu de...
Exactement, il y aurait des manières vraiment d'étirer ça puis de dire « Ah, bon, moi, je peux pas m'éviter de consommer du fromage parce que j'aime pas le fromage végan. » Bon, mais ça, c'est clairement pas une excuse qui est acceptable.
Ouais, puis surtout que, tu sais, au fait, t'as juste à pas en manger, puis
voilà.
Tu peux juste pas en consommer du fromage dans la vie, puis ta santé, ta vie sera pas en jeu non plus. Là.
Exactement.
Fait que toi, t'es vegan par rapport à cet enjeu-là, c'est plus intersectionnel et tout, je suis sûre. Mais en même temps, toi, t'en consommes des produits animaliers.
C'est ça. Ça, c'est un peu particulier. Dans le fond, je suis vegan depuis 4 ans, mais il y a environ 2 ans, durant la pandémie, j'ai commencé à faire du dumpster diving. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé à être confronté à une situation particulière dans laquelle j'avais des fois accès à des produits animaux que j'avais pas achetés, donc que je trouvais directement dans les containers des épiceries. Moi, je considère que c'est acceptable de consommer ces produits-là parce que je contribue pas financièrement à l'exploitation des animaux.
Mm-hmm.
Bon, clairement que j'en donne aussi de ces produits-là. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais c'est ça, j'en consomme moi aussi parce que, comme beaucoup de VG ou de vegan, c'est pas parce que j'aimais pas ces produits-là que je suis devenu vegan. Bon.
Non, c'est ça.
Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose généralement que quand j'en parle aux gens, ils sont assez sympathiques à ça, ils trouvent ça pragmatique et tout.
Mm-hmm.
Ça s'insère dans une vision qui est un peu plus conséquentialiste du véganisme.
Mm-hmm.
Donc, dans le sens où, justement, j'encourage pas financièrement l'exploitation des animaux.
Non, en fait, c'est juste que sinon, ça va se jeter. Fait que tant qu'à faire, tu le prends.
Exactement. Mais en même temps, il y aurait aussi moyen de m'amener des objections là, assez fortes à ce que je fais. Par exemple, ce serait de dire que j'encourage pas la création d'un monde dans lequel on consomme pas des sécrétions ou des parties du corps des personnes, somme toute. Là,
mm-hmm.
Des êtres vivants qui ont une sensibilité, une agentivité. Bon, puis c'est notre but en tant que vegan là, de mettre fin à ces pratiques-là.
Mm-hmm.
Fait que ça serait une objection que je considère très, très valable à tout ça.
Mais est-ce que tu trouves beaucoup de viande dans les containers? Est-ce que tu en consommes beaucoup comme à tous les jours ou c'est juste parfois tu en consommes?
Non, c'est pas à tous les jours. Oui, c'est ça, de temps à autre.
De temps à autre, là, c'est juste... Parce que sinon, tu vas à l'épicerie chaque semaine, tu achètes tes protéines, là, peu importe ce que c'est, tu as vu légumineuses, etc. Là.
Voilà.
Dans le fond, toi, tu es devenu vegan, tu sais, parce que j'essaie de me dire, bon, tu sais, être vegan, la plupart des gens, c'est à cause de l'exploitation animale en premier lieu.
Mm-hmm.
Et là, toi, tu dis que, bon, c'est dans les poubelles, c'est comme une sorte de pas de gaspillage en même temps. C'est là, pourquoi tu ne le mangerais pas? Mais pourquoi de bord, tu es devenu vegan si c'est pas juste le fait de cruauté animale? Parce que je me dis que ton paquet de viande dans les poubelles, cet animal-là, derrière le paquet de viande, a quand même été exploité.
Oui, absolument. Moi, à l'origine, c'était surtout pour des considérations environnementales, mais graduellement, c'est devenu vraiment plus à propos des animaux.
Okay.
C'est ça, la différence que l'argument que je vais faire dans ma tête, c'est de me dire que oui, il y a eu une souffrance là, mais cette souffrance là, elle est purement inutile là, à partir du moment où est-ce que ces produits-là se retrouvent dans les déchets.
Ouais.
C'est clair que toute exploitation animale, jusqu'à un certain point, est absolument inutile. Là.
Tout à fait.
Mais dans ces situations-là, je conçois ça comme étant doublement inutile, si on veut.
Comme si on la jette puis qu'on la consomme pas, ça serait doublement inutile, dans le fond.
Voilà.
Ben, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je voulais que tu viennes avec moi aujourd'hui en studio, parce que d'habitude, les personnes végé véganes, puis je me mets là-dedans aussi, là, pour moi, ça serait comme inconcevable de manger un poulet. Mais c'est parce que c'est sûr que moi, je suis devenue végé d'abord à cause de la souffrance animale. Fait que c'est sûr que je me verrais pas, mais en même temps, dans une perspective zéro gaspillage, puis je pense qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui, du gaspillage, je trouve ça intéressant de concevoir que tu peux faire attention à la planète et tu peux être vegan sans nécessairement couper tous les produits animaliers. Et tu dis que pour toi, le véganisme, ça s'inscrit dans une perspective plus intersectionnelle parce que c'est pas juste au niveau de ton alimentation, c'est aussi au niveau de ta vie. Fait que j'aimerais ça un peu que tu nous expliques ça.
Quand je parle d'intersectionnalité, en fait, je fais plus référence à ma conception du véganisme comme étant, du véganisme et de la libération animale, comme étant lié à d'autres luttes.
Okay.
Je lis de plus en plus de littérature, justement, qui vont faire des liens entre le spécisme, qui est la forme de discrimination qui vise les animaux,
mm-hmm.
qui nous mène à tracer des différences arbitraires entre nous et les animaux, et entre les animaux non humains en tant que tels,
ouais.
entre le spécisme, donc, et d'autres formes d'oppression comme le racisme, le sexisme. Et je trouve que la libération animale, au final, est absolument intégrale à ces autres mouvements-là.
Mm-hmm. Mais toi, en fait, ça fait un bout de temps, je pense, qu'on se tient un peu ensemble. Là. Et je vois, par exemple, que tu c'est rare que tu achètes des choses neuves. T'sais, ça aussi, je pense que ça rentre un peu dans une perspective du véganisme, dans le sens où, si on parle de côté environnemental, mais pour avoir notre mode de consommation, il faut le plus possible, je pense, acheter de seconde main. Il faut faire attention à notre planète. Et puis justement, tu peux acheter de cosmétiques, pour avoir des souliers en cuir. C'est des choses qui font partie du véganisme. Mais que je pense qu'il y a pas assez de personnes végé-véganes qui le font. Je pense que j'ai beaucoup d'amis qui disent qu'ils sont véganes, mais juste côté alimentaire. Je pense que, en tout cas, pour moi, c'est important que si tu te dis vegan, ben c'est parce que tu le considères aussi autre que dans ton assiette.
Oui, c'est clair que ça va, c'est compatible avec plusieurs autres pratiques environnementales, oui.
Ouais, mais je trouve que c'est aussi un peu de l'hypocrisie de te dire, mettons, je suis vegan, je consomme pas de produits animaliers, mais mon maquillage, mes cosmétiques, participe à la cruauté animale. Tu en achètes, en fait, toutes les cosmétiques sont empreintes de cruauté animale, puis on en met, peut-être parce qu'on se rend pas compte, parce que c'est pas directement dans notre assiette, on voit pas l'animal derrière le produit, encore moins que dans la viande, mais je pense que ça résulte un peu une petite hypocrisie de notre part, là.
Ouais, ah, puis c'est clair que c'est plus difficile de s'en rendre compte hein, quand on l'a pas directement dans la face. C'est comme l'exemple dont on parle souvent, là, le vin.
Le vin.
Le fait que pas tous les vins soient vegan, c'est vraiment particulier.
Ouais, tu peux expliquer pourquoi le vin c'est pas vegan? Je pense que ça va en intéresser plusieurs.
Ouais, dans le fond, il y a un processus dans la fabrication du vin qui s'appelle le collage. Le collage sert à agglomérer les particules qu'il y a dans le vin, alors qu'il est encore brut, pour les faire descendre au bas des cuves. Et à partir de ce moment-là, ben justement, c'est séparé, puis on a un beau vin qui a une belle robe, qui est claire, qui n'a pas de particules en suspens.
Mm-hmm.
Les agents de collage qui sont utilisés, c'est souvent des trucs comme du lactosérum, souvent ça va être des minéraux comme des os. Traditionnellement, il y avait d'autres choses qui étaient utilisées aussi, ça c'était il y a plus longtemps, mais du sang. Ouais. Donc, tout ça, c'est des agents de collage qui ne se retrouvent pas dans le vin au final, mais qui font partie.
Qui servent à la fabrication.
Exactement. Ouais.
Puis, est-ce qu'on parle. Parce que moi, qu'est-ce que j'avais lu, c'était surtout comme les crustacés qu'on prenait pour ça. Mais est-ce que c'est aussi, comme tu dis, les os, c'est vraiment. Est-ce qu'on va tuer d'autres êtres vivants, je peux dire, pour ça, ou on va prendre, mettons, la partie du bœuf qu'on mange pas, ses os, pour faire le collage, mettons?
Oui, ben je pense que ta deuxième explication est la meilleure. Là. C'est juste une manière pour l'industrie de l'exploitation animale, justement, de maximiser son utilisation de toutes les parties des animaux.
Au moins, tu sais, je me sens moins, tu sais, tant de personnes dans ce milieu-là, étant végé, je me sens moins mal, tu sais, de consommer du vin qui n'est pas vegan, justement, parce que je me dis, bon, c'est un restant, puis en même temps, ça va pas dans mon corps.
Ben en même temps, tu sais, c'est intégré au système, un peu de la même manière que la viande puis les produits laitiers le sont.
Mm-hmm. Ouais.
Les vaches laitières, à la fin de leur vie, ben, vont être tuées puis servir à faire des hamburgers un peu comme les autres vaches.
Ouais, mais je pense que la cruauté est différente. Là, mon lait, je la fais souffrir, tandis que bon, l'os du bœuf qui est mort, je le fais pas de temps souffrir. En tout cas, je vois quand même une différence, là, mais...
C'est clair qu'il peut y avoir des différences de degrés.
Ouais, mais il y a aussi des bons vins vegan, en tout cas, à la sac, là, si vous voulez voir.
Absolument, il y en a de plus en plus.
Ouais, puis si vous êtes végé-vegan et que vous écoutez ça, culpabilisez pas pour ça. Là, genre, c'est correct que vous consommiez du vin non-vegan. Je pense pas que ça soit la fin du monde. Là. En tout cas, pas pour le vin. Fait que sur ça, on va prendre une petite pause publicitaire et on vous revient dans quelques instants. Bon retour de pause! Donc là, Léon, dans le fond, tu voulais faire un parallèle avec le véganisme et autres mouvements. Je te laisse y aller.
Super. Ben, avant la pause, justement, on a parlé du fait que je voyais que le spécisme était lié au racisme. Je me disais que je pourrais expliciter un petit peu plus tout ça. Y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Silko. S-Y-L-K-O.
Okay.
Dans le fond, c'est une philosophe qui est une végane et une féministe noire. Et dans le fond, dans un de ses ouvrages, elle va essayer d'expliciter le lien, justement, entre racisme et spécisme.
Mm-hmm.
Pour elle, on peut pas comprendre l'espèce de hiérarchie de l'être que fait la suprématie blanche, sans opposer son sommet, qui est l'homme blanc, à ce qui est complètement en bas. Pas l'homme noir, ni la femme noire, mais l'animal.
Mm-hmm.
Fait que l'animal, c'est la catégorie qui est complètement en bas de la hiérarchie de l'être. Et l'animal, pour Silko, est une catégorie productrice de violence. C'est-à-dire que d'apposer l'étiquette d'animal à un humain, ça permet de justifier des traitements qu'on trouverait complètement condamnables dans d'autres circonstances.
Ouais.
Puis on voit que dans l'histoire de la rhétorique raciste, c'est absolument intégral l'utilisation de la catégorie animale. On déshumanise jamais les humains dans l'abstrait. On va toujours essayer de les ramener à quelque chose d'autre qui existe. La plupart du temps, cette chose-là, c'est un animal non humain. Donc c'est ça, elle voit vraiment l'animalité comme étant intrinsèquement liée à la condition des personnes noires dans la société occidentale.
Dans le sens où, quand, mettons, il y avait l'esclavage, ben, on réduisait le statut de la personne noire au même statut que l'animal, qui était dans le fait que les deux, on les exploitait puis qu'on les voyait comme, non seulement inférieurs, mais un peu comme rien.
Exactement, puis on le voit aussi dans les insultes qui sont utilisées à l'égard des personnes noires, hein, beaucoup d'insultes qui vont justement référer à des animaux.
Mm-hmm.
Même dans le cas d'autres groupes qui sont dominés, ça peut être le cas aussi, des insultes qui font référence à des animaux. Dans la traite des esclaves, les techniques de confinement qui étaient utilisées ressemblaient beaucoup, beaucoup aux techniques qui étaient utilisées pour transporter des animaux, garder des animaux captifs. Donc, pour cette philosophe-là, si on veut vraiment mettre en danger le racisme, si on veut contester le racisme de la meilleure manière possible, il faut intégrer à notre vision le point de vue des animaux là-dedans.
Mm-hmm. Ouais. Ben, je pense que c'est dur, en fait, pour plusieurs d'intégrer les deux, dans le sens où je connais... Ben en fait, tout mon entourage n'est pas raciste, là, puis ils acceptent pas ça, puis ils veulent vraiment le combattre, puis ils sont pas d'accord. Mais par contre, ils vont aller manger des animaux, puis pour eux, je suis sûre que même quand je leur en parle, c'est absurde là, de faire le lien entre spéciste et raciste, parce que pour eux, ils disent, bon, on parle d'un être humain, t'sais, faut être égal, c'est différent, mais l'animal, par contre, mais on l'a toujours fait un peu, là, t'sais, je pense que pour beaucoup, c'est trop dur de voir là, qu'il y a vraiment une ressemblance. Puis la féministe dont tu parles, c'est pas la première qui en parle. Là.
Absolument pas, puis il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus qui font le rapprochement en spéciste, antiraciste, mais je pense que les gens, comme ils veulent se fermer les yeux là-dessus, comme se boucher les oreilles, puis pas voir que oui, on peut faire un lien. Là. Puis je pense aussi que ça en insulte plusieurs aussi, ce lien-là, dans le sens que comme
oui.
Hey, le racisme, c'est dégueulasse, on parle d'une vie humaine, tu sais, peu importe.
Ouais.
C'est comme, oui, mais tu parles d'une vie animale. Ouais, mais l'animal est en dessous de nous.
Ben, c'est ça, justement. Ces philosophes-là vont parler aussi de la levée de boucliers qu'on voit quand on fait ce genre de comparaison-là. Mm-hmm. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand les véganes font des comparaisons entre les animaux et des groupes d'humains marginalisés, c'est vraiment pas pour diminuer le statut moral des humains marginalisés. C'est vraiment beaucoup plus... Ben, c'est vraiment pour augmenter le statut des animaux à ce qu'ils devraient être.
Mm-hmm.
Dans le fond, ces personnes-là ne vont pas considérer que les animaux non humains et les humains sont pareils en tout, par rapport à tous les facteurs.
Ouais.
C'est juste de considérer que nos ressemblances sont suffisantes et sont les points les plus importants autour desquels on devrait se rallier.
Ouais.
Donc c'est ça, à partir de ce moment-là, il faut attaquer la catégorie productrice de violence qu'est l'animal. Parce qu'à partir de ce moment-là, ben, on enlève un outil qui a été profondément utile à la rhétorique raciste dans l'histoire et encore aujourd'hui.
Oui, ben en fait, je pense que tu l'expliques vraiment bien, mais quand on lit justement ces philosophes-là, ben même autres que philosophes, il y a aussi des scientifiques, des chercheurs là, qui ont écrit sur cette ressemblance-là, et c'est marquant. C'est toujours dur un peu quand on l'entend au début, mais quand on se met à faire des recherches, on voit que c'est vraiment marquant à quel point, oui, on peut faire un lien entre les deux sans nécessairement, comme tu dis, diminuer ce que vivent les personnes de couleur, mais juste montrer que, en fait... la raison pourquoi on domine les animaux, en fait, c'est surtout par la parole, parce que nous, on a un moyen de communiquer beaucoup plus gros que les animaux. Et en fait, les chercheurs, c'est souvent ça qu'ils ont dit, c'est la seule raison pourquoi on les domine. Parce que, à ce que cherche une baleine, c'est vraiment plus intelligent que nous.
T'sais. Ah, ben, en fait, oui, c'est ça. Les animaux ont des capacités cognitives qui sont...
qui sont vraiment, oui. C'est à y penser.
Ouais.
Si vous voulez faire des recherches, là, Internet est rempli de ce genre de... En fait, de parallèles de... comparaison.
Puis si je peux conclure ce pan-là de notre conversation là-dessus en disant deux choses, c'est clair que ces comparaisons-là sont pas toujours bien faites.
Mm-hmm.
Hein, le but, c'est pas de créer des slogans pour faire fâcher les gens ou quoi que ce soit. Là. Le but, c'est vraiment d'établir des parallèles qui sont importants tant pour notre pensée que pour notre action.
Oui, c'est ça. Allez pas devant manifester devant un magasin de fourrure en disant qu'il est, tu sais, faire un petit slogan lien avec le raciste, là, tu sais, c'est vraiment pas ça.
Ben, PETA avait été critiqué beaucoup pour avoir fait ces liens-là.
Ah t'sais. Ouais, j'ai pas vu.
Ouais, ça s'était fait, là, tu sais, dans les années passées à plusieurs reprises. Mais c'est ça. C'est qu'on le fait pas pour faire un slogan, dans le fond.
Non,
puis
c'est ça.
Puis je voulais dire aussi que, de la même manière que j'ai fait le lien avec racisme aujourd'hui, ben, le lien est faisable avec beaucoup d'autres formes d'oppression. Là. De la même manière, on peut réfléchir au féminisme dans une perspective d'animalité. Oui.
Ouais, c'est vrai. Ben, on a beaucoup, en fait, là, qui font ça aussi. Là, beaucoup de. C'est sûr, parce que Léon et moi, on a eu un cours sur les féministes cette session. Et puis, on l'a vu, là, en fait, là, tous les liens. Toutes les sortes de féministes, écoféministes, féministes en lien avec justement le spécisme, en lien avec le racisme, la double marginalisation des femmes de couleur. Je pense que, en fait, c'est vraiment plus que ce qu'on accorde aux féministes. Fait que c'est super intéressant, ça aussi, si vous voulez aller jeter un petit coup par vous-même. Là, je pense que avant de prendre ce cours-là, j'avais, en tout cas pour ma part, une perception autre. Du féminisme, puis qu'instaure ma perception est beaucoup plus complexe et ouverte de ce que je pensais à la base. Et sinon, aussi, je voulais parler un peu vite du fait que tu fais du dumpster diving.
Ouais.
Parce que je pense que, c'est ça, comme j'ai dit au début de l'émission, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent c'est quoi, ou ils ont juste la perception d'être comme « Ah, tu as fouillé dans les poubelles! » Mais c'est comme « Non, tu sais, c'est pas... Il n'y a rien de... Tu sais, il n'y a rien de dégueu dans ça. »
Non, absolument pas. Absolument pas. Dans le fond, c'est... Tu sais, c'est pas comme si on allait fouiller dans des poubelles résidentielles, tu sais, où est-ce que tu peux trouver n'importe quoi. Là. C'est vraiment d'aller à des endroits ciblés où est-ce qu'on peut récupérer de la nourriture. Fait que, tu sais, ça va être des épiceries grande surface, des dépanneurs même. Mm-hmm. Mais ça peut être d'autres produits aussi.
Mm-hmm.
Tu sais, de récupérer des cosmétiques.
Ouais, de trouver des cosmétiques, toi, c'est vrai.
Ouais, des cosmétiques, beaucoup, des peignes,
des
fers à friser.
C'est bizarre, toutes des affaires pareil, que j'ai déjà trouvées. Ouais. Puis, si, mettons, quelqu'un là, voulait se lancer là-dedans ou est intéressé, as-tu des groupes Internet, des ressources, des trucs?
Oui, mais dans le fond, il y a quand même une grosse communauté de dumpster diving à Sherbrooke. L'endroit pour rentrer là-dedans, si on veut, c'est pas mal le groupe Dumpster Sherbrooke sur Facebook. Puis, ce groupe-là va permettre un peu de se mettre au courant des bonnes pratiques en termes de dumpster diving. Et aussi, c'est une belle communauté pour lancer un appel justement. « Hey, j'ai jamais fait de dumpster diving. J'aimerais s'en faire pour une première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait m'accompagner? »
Ouais.
Fait que ça, c'est une super belle manière de faire ses premiers pas.
Oui, c'est ça, parce que ça peut être déboussolant, si je peux dire, là, au début, de juste comme te lancer là-dedans pour te lancer là-dedans. Et puis, toi puis moi, on y avait été, en fait, un moment donné, puis il n'y avait rien, parce que, comme tu m'expliquais aussi, il y a des journées où ce que les containers passent, donc, en fait, les poubelles passent, donc il y a des journées spécifiques ou aller chercher dépendant des...
Oui, dépendamment des places. Ça, c'est sûr que c'est des choses qu'on en vient intégrer après, après plusieurs visites. Mais oui, c'est ça. On pourrait soulever que c'est important de ne pas se décourager à la première, tu sais, au premier échec.
Oui, c'est ça, parce que ça se peut que tu trouves rien. Puis après ça devient aussi médiotique. Là, telle journée, mettons le mercredi, je sais que c'est Provigo. Le mardi, il faut que j'y aille le matin si je veux aller chez GA.
Exact. De manière générale, on va y aller le soir quand même. Là.
Ah, bon, le soir, vas-tu. Ouais,
c'est ça. ça, c'est comme une des règles de base, là, si on veut. Idéalement, il faut y aller le soir.
Ouais.
Juste question de discrétion puis tout.
De discrétion, ouais, c'est ça en fait. Puis justement, par question de discrétion, tu sais, c'est pas non plus une pratique illégale. Là,
absolument pas. Dans le fond, à partir du moment où les gens ou des commerçants au Québec jettent des choses, ça devient propriété publique parce qu'ils ont clairement signifié leur intention de s'en débarrasser. L'endroit où le dumpster diving peut verser dans l'illégalité, c'est là où il y a un bris de propriété, par exemple. Fait que dans le fond, casser un cadenas. pour aller chercher des trucs dans un dumpster.
Okay.
Ça, ce serait un exemple où est-ce que là, on est dans l'illégalité.
Ouais.
Mais tu sais, quand il y a un dumpster qui est là, qui n'est pas cadenassé, ben il n'y a rien.
Il n'y a rien d'illégal. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que souvent, je ne sais pas pourquoi on a cette perception-là que ça serait illégal quand on pense à ça, tu sais, puis qu'il faut y aller dans le noir. Mais comme non, en fait, on y va juste de soir par respect un peu de visibilité. Pis...
C'est ça. Dans le fond, par respect, si on veut, pour les commerçants puis tout là.
Ouais.
Juste pour pas que ce soit bon, tu sais qu'il y a tout le temps quelqu'un dans la poubelle.
Vu que tout le monde qu'il y a 50 personnes par jour qui vont en plein milieu de la journée là.
Voilà.
Et c'est tout à fait comprenable aussi, je pense que on essaie d'être un peu plus discret, mais je trouve ça super intéressant. En tout cas, ben je suis sûre que c'est le même aussi partout dans les grandes villes, mais à Sherbrooke, il y a tellement de choses, il y a tellement de ressources, c'est fou là tout ce que tu me dis que tu trouves à chaque semaine, tu sais. Tu peux te nourrir de ça, là, quasiment. Puis non seulement juste te nourrir, mais il y a aussi, crime, justement, tous les cosmétiques, les peignes, les faire plats, tu sais. Après ça, c'est comme t'en as pas de besoin, mais donne-le à quelqu'un qui en a de besoin, puis ça va lui faire plaisir aussi, là.
Ouais.
Fait que, non, en tout cas, je trouve ça vraiment super intéressant. Et, ben, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'apprécie vraiment beaucoup. Et on se voit la semaine prochaine.